directement et sans transition à Romuald.
Alors, je vais essayer d'être aussi clair et précis que mes camarades, ce qui n'est pas gagné parce que j'ai un texte beaucoup trop long pour les 20 minutes.
Ah non, ça, c'est pas bien.
Et je vais pas, j'annonce pas déjà que je vais dépasser les 20 minutes, mais seulement que je risque de manquer de précision. Alors, simplement, je vais vous parler. Donc, le titre parle de rationalisation bureaucratique de l'action sociale. Alors, je précise que je ne parle pas de l'action sociale dans sa globalité, mais d'un espace particulier en son sein, qui est l'espace de l'éducation spécialisée, que par ailleurs, j'appellerai espace de l'intervention socio-éducative pour préciser qu'il ne s'agit pas de travailler sur les éducateurs spécialisés, mais sur tous les professionnels qui agissent et se coordonnent dans ce cadre-là, c'est-à-dire à la fois des éducateurs spécialisés, mais aussi toute une série d'autres travailleurs sociaux et, ce qui m'intéresse plus précisément encore, des médecins, des psychiatres et des psychologues. Et évidemment, j'oublie un certain nombre d'autres professions concernées par cet espace d'intervention. Alors, je précise pour commencer que la naissance du champ de l'intervention socio-éducative est inséparable en France, en tout cas, de la notion d'enfance inadaptée, telle qu'elle a été adoptée en 1943 par le Conseil technique de l'enfance déficiente ou en danger moral. Je dis cela pour préciser que d'emblée, dès l'apparition de l'éducation spécialisée telle qu'on l'entend, on comprend aujourd'hui ce terme, cette notion d'enfance inadaptée subsumait tout un ensemble de cas extrêmement diversifiés. Alors, pour reprendre les termes du conseil technique en question, on parle à la fois d'enfance coupable, d'enfance en danger moral, d'enfance débile, d'enfance déficiente, d'enfance anormale, d'enfance malheureuse, et je ne vous en cite que quelques-uns, tout simplement pour préciser que dès le départ, on a un ensemble de situations extrêmement hétérogènes, et d'une part, et par ailleurs, d'emblée, est à la fois considéré comme enfant inadapté, les enfants qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui les difficultés sociales, et les enfants qui relèvent aujourd'hui de ce qu'on appelle le handicap. Au sortir de la guerre, cet espace d'intervention socio-éducative va gagner en visibilité, mais aussi s'élargir très très rapidement. Hein. On parle des années d'or du travail social en ce qui concerne donc la période du sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Il y a une augmentation très rapide du nombre de travailleurs sociaux en France, et notamment des éducateurs spécialisés, ce qu'on oublie souvent, dont le nombre augmente beaucoup plus rapidement que la quasi-totalité des autres professionnels du travail social. Cette augmentation rapide s'explique notamment par l'accès à de nouvelles populations, et notamment à des populations adultes, dans le cadre de l'éducation spécialisée, qui donc ne se concentre plus seulement sur l'enfance et l'enfance inadaptée, mais aussi sur les difficultés rencontrées par des personnes adultes. De sorte que très rapidement se structure, alors je le dis grossièrement et en utilisant les termes utilisés par l'administration, mais on peut considérer qu'elle se structure autour de quatre sous-champs, hein, qui s'organisent autour des oppositions d'une part entre les difficultés sociales et le handicap, et d'autre part entre l'enfance ou les enfants et les adultes, ce qui consiste à considérer qu'il y a d'une part donc des services et établissements sociaux spécialisés dans l'enfance en difficulté sociale, d'autre part des établissements et services sociaux spécialisés qui s'occupent des adultes en difficulté sociale, et enfin donc des services et établissements sociaux pour les enfants handicapés et des services et établissements sociaux pour adultes handicapés. Donc quatre sous-champs qui s'organisent. Alors évidemment, si on rentre dans le détail, parfois ces sous-champs se croisent, les frontières ne sont pas si claires que je viens de le définir, mais en tout cas, globalement, c'est de cette façon qu'est organisé cet espace d'intervention. Alors, ce à quoi va être confronté cet espace ou ce champ d'intervention à partir des années 70, ce qui est très nouveau, c'est deux phénomènes qui sont tout à fait différents. D'une part, l'apparition de nouveaux publics dans les années 70, je vais être plus précis dans un instant, et d'autre part, un effort explicite, une volonté explicite de l'État de rationaliser cet espace d'intervention, et notamment tout ce qui touche au médico-social, donc beaucoup plus directement concernant le champ du handicap. Alors, en quoi consistent ces deux phénomènes auxquels se trouve confronté donc, cet espace d'intervention ? Donc, d'une part, je parlais de nouveaux publics. Alors, je le dis très vite hein, parce que c'est des choses connues, mais je le rappelle pour pouvoir avancer dans mon argumentation. Donc, d'une part, des nouveaux publics, c'est-à-dire à partir des années 70, avec la crise économique et sociale, avec l'augmentation des inégalités sociales qui sont dues à l'effritement de la condition salariale. C'est l'apparition du chômage de masse, etc. Donc, apparition d'un nouveau public pour les travailleurs sociaux, et notamment donc, dans le champ de l'éducation spécialisée. Nouveau public qu'on a appelé les nouveaux pauvres. Hein, c'est-à-dire, alors, on a utilisé plein de termes. Hein, Robert Castel utilise par exemple le terme de surnuméraire ou même d'inutile au monde. Pourquoi ces termes-là ? Parce que ce sont des gens qui, contrairement à ceux aux populations anciennes, enfin anciennes plus, on va dire plus classiques, qui concernent l'éducation spécialisée, qui n'ont pas de problèmes spécifiques au sens où on aurait pu l'entendre auparavant, mais qui pour des raisons de conjoncture économique, se retrouvent dans l'impossibilité de s'insérer économiquement et bien souvent aussi parallèlement, car bien évidemment c'est lié socialement. Alors, je précise simplement, avant de passer à l'autre phénomène, que cette situation rend les choses très complexes pour les éducateurs spécialisés, puisqu'effectivement, je trouve face à un problème qui n'a pas de solution, puisque le suivi socio-éducatif dont ils sont les spécialistes consiste à aider une personne à, alors je le dis simplement, mais à transformer, hein, à aider quelqu'un à changer, à se mobiliser des savoirs ou des dispositions qu'il aurait pu acquérir ailleurs, qu'il n'aurait pas été mobilisé, en tout cas à se changer, à se transformer pour améliorer son insertion. Or, dans une situation où, de fait, cette non-insertion n'est pas due à la configuration ou à la personnalité de cette... Et j'ai oublié de vous dire qu'il y aura des petites pauses de publicité. C'est pas très grave ça. Du coup, je suis perdu. Voilà. En tout cas, donc face à un problème sans solution, donc les éducateurs spécialisés sont en quelque sorte dans une situation. Alors là, dans le cadre des difficultés sociales, qui est beaucoup plus proche finalement de ce que certains éducateurs peuvent vivre, alors éducateurs ou autres professions de ce champ peuvent vivre dans le cadre du handicap ou notamment dans le handicap lourd, les possibilités d'insertion étant quasiment nulles. Il s'agit plus, alors pour reprendre l'expression de Goffman, de calmer le jobard que c'est-à-dire de le convaincre que sa situation finalement n'est pas si mauvaise que cela et qu'il doit se contenter de ce qu'il a, plutôt que de l'aider à se transformer pour changer sa situation. Le second phénomène dont je parlais, c'est cet effort explicite de l'État de rationalisation du champ de l'intervention sociale et notamment donc du médico-social. Alors là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais après les années 68, vous savez sans doute que le travail social a fait l'objet de très nombreuses critiques. Alors Vincent a évoqué tout à l'heure les théories sur le contrôle social, hein, qui parfois étaient d'une grande violence au regard des travailleurs sociaux, mais aussi hein, plus globalement des critiques qui sont venues du champ économique hein, sur l'aspect extrêmement dépensier de l'intervention sociale et du travail social, et dépensier pour une efficacité qui paraissait très marginale, voire inexistante. Et puis une autre critique beaucoup plus technocratique qui consistait à considérer cet espace inefficace parce que mal organisé, parce que irrationnel, parce que trop hétérogène, etc. René Lenoir, donc ce ministre des Affaires sociales dans les années 70, qui a écrit alors ce best-seller intitulé Les Exclus, hein, un Français sur 10 tout de même, c'est le sous-titre de ce livre. qui explique que l'inefficacité du travail social, qui semble être un fait acquis, s'explique en grande partie par ce manque d'organisation et d'homogénéité dans l'espace d'intervention. Donc son objectif, c'est de rationaliser cela en coordonnant, en évitant les redondances entre les dispositifs qui réaliseraient donc les mêmes activités, sans même le savoir d'ailleurs. Hein, il y a des anecdotes sur des usagers qui seraient suivis par plusieurs travailleurs sociaux, sans même savoir que d'autres travailleurs sociaux font exactement la même chose au même moment, concernant la même personne. Donc il faut rationaliser tout ça, il faut mettre de l'ordre, etc. Donc c'est la grande loi de 75, hein, qui est à l'origine de la CDES et de la COTOREP. Donc voilà ces commissions, hein, qui décident des orientations pour les enfants handicapés en ce qui concerne la CDES pour les adultes handicapés concernant la COTOREP, qui ont pour fonction d'attribuer le statut de personne handicapée, qui aussi mesure le taux d'incapacité, qui oriente vers différents établissements spécialisés en fonction du type de handicap, qui attribue les allocations, etc., etc. Donc, en d'autres termes, ce sont des commissions qui vont centraliser et coordonner toute une série de décisions et d'informations qui, auparavant, étaient beaucoup plus éparses. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, cet effort de rationalisation s'est continué. Hein. Après 1975, on peut remarquer par exemple qu'avec la loi de 2005, ces deux commissions ont été à leur tour unifiées, puisque maintenant on n'a plus qu'une seule commission au sein de la MDPH, la Maison des Personnes Handicapées. Que donc on voit se continuer cet effort d'homogénéisation et de rationalisation de l'espace de l'intervention socio-éducative. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ces deux phénomènes sont venus transformer cet espace d'intervention, mais de façon très paradoxale, voire contradictoire. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a ici deux phénomènes qui sont de nature très, très différente. Vous avez vu que l'un concerne... Je n'ai pas du tout regardé l'heure.
Ça va, t'as encore...
Ah, ce qu'il peut.
On va dire 7.
D'accord. Alors, bon, on a d'une part donc un phénomène qui concerne plutôt l'offre, hein, et l'autre plutôt la demande. D'accord. D'un côté, on a un phénomène qui est à l'origine de l'apparition d'un nouveau public, et de l'autre côté, on a plutôt donc un effort d'action sur les dispositifs de réglementation, etc. D'autre part, on a un phénomène qui concerne beaucoup plus le champ des difficultés sociales, hein, les nouveaux pauvres, le chômage de masse, etc. Et d'un autre côté, un phénomène qui concerne beaucoup plus le handicap et le médico-social. D'accord ? Donc à quoi est-ce qu'on aurait pu s'attendre ? On aurait pu s'attendre à une hypertrophie soudaine du champ des difficultés sociales, puisqu'on a un nouveau public qui arrive, des nouveaux usagers, etc. Et inversement, peut-être pas une atrophie, mais en tout cas un statu quo concernant le médico-social. Alors atrophie peut-être parce que rationaliser, ça veut dire, alors pour le dire simplement, couper ce qui dépasse, hein, mais sans même imaginer que cet effort de rationalisation ait pu aller jusque-là, en tout cas un statu quo, parce qu'on ne voit pas dans quelle mesure cette coordination et cette homogénéisation de l'espace aurait pu produire une explosion du nombre de personnes handicapées. Or, effectivement, vous l'avez deviné, c'est exactement le contraire qu'on observe, c'est qu'à partir à la suite de la loi de 75, on observe non pas une atrophie, mais cette fois-ci un statu quo du champ des difficultés sociales et une explosion ou une hypertrophie du champ médico-social et du nombre de prises en charge de personnes handicapées. Alors, évidemment... Alors, pour vous donner quelques chiffres, hein, simplement, en tout cas, on a le champ médico-social a toujours occupé une place plus importante que le champ des difficultés sociales. Dans les années 80, ce champ constituait à peu près 75% des prises en charge, contre donc évidemment 25% pour les difficultés sociales. Mais en 2004, cet espace constituait non plus 75%, mais 82% des prises en charge dans le champ de l'éducation spécialisée, contre seulement 18% pour les difficultés sociales. Cette transformation est liée à l'augmentation très rapide du nombre de prises en charge dans le handicap et un statu quo, ou en tout cas bon, voilà, un nombre de prises en charge dans le cadre des difficultés sociales qui reste continu. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Comment est-ce que ces deux phénomènes ont pu produire exactement le contraire de ce à quoi on aurait pu s'attendre? Alors là, bon, en cinq minutes, je vais être obligé d'être très schématique. Mais globalement, on peut le comprendre en regardant précisément comment s'est organisée cette rationalisation. La loi de 75, pour rationaliser, il faut évidemment unifier, homogénéiser, ça consiste à trouver des termes qui permettent de subsumer tout un ensemble de réalités qui sont au départ hétérogènes. C'est la notion de handicap, entre autres notions, mais la notion de handicap qui va jouer ce rôle. Alors je rappelle qu'en fait, la notion de handicap, c'est une notion très récente, enfin telle qu'elle est utilisée aussi de façon aussi systématique aujourd'hui. Elle fait son apparition globalement dans la loi de 57, et encore dans la loi de 57, elle renvoie à un cas très spécifique qui est essentiellement les accidents du travail et le handicap physique. Il faut attendre 75 pour que cette notion de handicap recouvre, tu me dis, hein, la globalité, donc, soit élargie à toute une série de situations extrêmement diverses et qui, donc, va recouvrir globalement l'ensemble du médico-social. Alors, pour ce faire, il faut redéfinir le handicap. Et dans la loi de 75, il y a cette chose extraordinaire qu'il y a un refus explicite de définir ce qu'est un handicap. Alors, je vous rappelle la réponse de Simone Veil face donc à l'Assemblée nationale, qui, quand on lui demande « comment le gouvernement compte définir ce qu'est une personne handicapée ?», elle répond « Le gouvernement, sur ce point, a choisi une conception très souple et très empirique, sera désormais considéré comme handicapé toute personne reconnue comme telle par les commissions départementales prévues par les articles 4 pour les mineurs et 11 pour les adultes du projet ». Voilà. Donc, en d'autres termes, n'est plus considéré comme handicapé une personne qui pourrait répondre à des critères étiologiques, médicaux, ou je ne sais quelle autre référence, mais en tout cas, qui est reconnu comme tel par les commissions administratives destinées donc à ces, qui ont été constituées pour à cet effet. Et ce qui fait glisser progressivement le handicap, alors comment est-ce que du coup on juge le handicap quand on n'a pas de définition du handicap? Par ses conséquences, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on est handicapé ou soupçonné de handicap à partir du moment qu'on rencontre des problèmes d'insertion. À partir du moment où il y a des problèmes d'insertion, il y a soupçon, en tout cas la possibilité de réfléchir à votre situation de handicap. Il y a un glissement progressif de la question du handicap vers la question de l'insertion. Ces deux questions commencent à être traitées ensemble. Hein. On trouve des textes qui traitent les deux questions de façon parallèle, la question du handicap et la question de l'insertion, de sorte que la frontière progressivement entre difficultés sociales et handicap devient non pas invisible, mais en tout cas devient de plus en plus poreuse. Alors, ce qui évidemment va conduire à le possible passage d'un champ à l'autre, et c'est ce qu'on va observer. Alors là, je m'en excuse, je vais être obligé d'aller très vite, mais ce qu'on peut démontrer de diverses façons, il va y avoir effectivement ce qu'on pourrait appeler une absorption d'une part du champ des difficultés sociales par le champ médico-social, par le champ du handicap. D'une part, statistiquement, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'augmente le chômage, augmente en même temps le nombre de personnes handicapées. Il y a une corrélation entre les deux courbes. Hein, ça a été démontré. Je n'ai pas fait moi-même ce calcul-là, mais il y a eu deux études réalisées par l'INSEE qui démontrent cette corrélation entre l'augmentation du RMI, l'augmentation du taux de chômage et l'augmentation du nombre de personnes reconnues comme handicapées. D'autre part, en termes de travail de terrain, c'est-à-dire quand on va observer ou interroger les travailleurs sociaux à ce sujet, nombreux sont les travailleurs sociaux à expliquer qu'effectivement, dans des situations où il leur semble ne plus y avoir de solution en termes sociaux, et conseiller, alors par exemple pour les chômeurs en fin de droit, et conseiller, parce qu'il ne semble plus y avoir d'autres solutions à leur proposer, de faire une demande de reconnaissance de handicap. Donc vous voyez qu'il y a un glissement qui se fait progressivement. Je peux vous donner d'autres exemples qui montre comment se passe ce transfert-là, mais on voit donc une absorption progressive des difficultés sociales par le champ du handicap. Ce qui, évidemment, alors, je vais conclure.
Encore une, deux minutes.
D'accord. Donc, ce qui évidemment pose... alors, ce qui en soi pourrait être considéré comme quelque chose qui ne fait pas nécessairement problème, finalement, si ça permet aux usagers... en question d'avoir accès à des aides financières. Nous ne sommes pas pour se positionner politiquement, enfin en tout cas pas aujourd'hui. L'idée, c'est que si les usagers peuvent en bénéficier, pourquoi pas. Ceci dit, c'est en quelque sorte un piège qui va se refermer progressivement parce que ce qui se passe après la loi de 75, après ce refus de définir le handicap, c'est qu'il va y avoir tout un travail sur cette notion de handicap et une redéfinition progressive de la notion de handicap. C'est-à-dire que face à ce refus de définition, les associations de personnes handicapées vont se saisir de cette occasion en or pour redéfinir le handicap en termes beaucoup plus sociaux, c'est-à-dire pour déstigmatiser et démédicaliser la notion de handicap. Donc il va y avoir un travail progressif, international, notamment au niveau européen, à travers les classifications internationales, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, du handicap, qui ont progressivement donné une définition du handicap beaucoup plus sociologique, pourrait-on dire, qui me semble-t-il, allait dans le sens d'une amélioration de la situation des personnes handicapées dans notre société. Alors je conclue juste sur ce point pour dire que le piège se referme au moment où, dans la loi de 2005, contrairement à cette évolution progressive des années 70 aux années 2000, la loi de 2005 fait exactement le mouvement inverse. Et du coup, on a l'impression que le piège se referme. C'est-à-dire qu'après cette grande période d'ouverture et de redéfinition de la notion de handicap, et donc cette possibilité offerte à un grand nombre de personnes en difficulté proprement sociale de glisser vers le handicap, le handicap est cette fois-ci bien défini dans la loi de 2005, mais de façon totalement inverse. Alors je vais conclure en vous lisant la définition du handicap dans la loi de 2005, qui réutilise ou reprend, se réapproprie les termes utilisés par la classification internationale, qui renvoie à l'environnement. Le handicap, c'est d'abord un problème d'environnement, avant d'être un problème individuel, d'une déficience personnelle. Mais en inversant les termes, vous allez voir comme la phrase est pas du tout ambiguë, extrêmement claire de ce point de vue-là. Donc dans la loi de 2005, on peut lire « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société ». Donc là, on est bien dans une lecture sociale. C'est bien un problème de situation dans le monde social. Donc d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, tout va bien, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En fait, donc, les termes des classifications internationales sont entièrement repris mais complètement inversés, puisqu'auparavant, ce qui tendait à s'imposer dans le champ de ce débat au niveau européen, c'était que le handicap, cette définition, en tout cas cet étiquetage comme personne handicapée, renvoyait à une situation spécifique dans l'espace social qui n'était pas nécessairement corrélée à une déficience, à un moindre être de la personne. Et là, on voit les termes complètement s'inverser, c'est que c'est bien un problème d'insertion, de situation dans le monde social, mais en raison, comme si c'était nécessairement en raison d'une déficience réelle, c'est-à-dire d'un moindre être. Merci.
Merci Romuald. Bon, ben voilà, après ces trois interventions très substantielles, on peut avoir, je ne sais pas, jusqu'à un quart de débat, c'est ça? Puis après, on fait une petite pause quand même.
C'est bien. Oui. À quelle heure
la... À 11h30 la prochaine.
Oui, on fait ça. Oui, c'est bon.
Alors, oui, c'est ça. Donc, on a 20 minutes, à peu près 25 minutes pour poser des questions, pour débattre, pour discuter.
Hop. Solène. Moi, j'ai une question pour Romuald. Avant de faire une thèse en socio, j'ai bossé dans le milieu de l'insertion. Et quelque chose que j'avais observé avec les gens d'émissions locales, et ça m'a beaucoup fait penser à ce que tu disais. Oh, pardon. C'est le fait que, justement, comme ils se sentaient vachement fliqués via, justement, ce type de logiciel, il y avait une espèce de course à des injonctions à placer les jeunes, finalement. Et alors, du coup, moi, je me souviens, on se retrouvait dans des situations qui étaient très surprenantes où Nous, moi, je travaillais dans une association qui devait envoyer des jeunes faire du volontariat à l'étranger. Et régulièrement, la mission locale nous envoyait des jeunes qui cherchaient des foyers d'urgence et qui n'en trouvaient pas, avec l'idée de se dire, bah oui, mais s'il est à l'étranger, il n'y a plus de problème de logement. Mais parce qu'ils avaient cette injonction à devoir trouver une solution immédiatement pour les jeunes qui venaient le voir. Et du coup, je me demandais si sur ton terrain, tu avais eu l'occasion justement de voir ces espèces d'effets pervers où du coup, le suivi du jeune est complètement laissé de côté pour faire du chiffre, en fait, quoi.
Je réponds tout de suite. Oui, il y a du remplissage de dispositifs. C'est pas une pratique majoritaire, mais effectivement, ça peut exister. Parce que le financement de la mission locale, c'est les collectivités locales, la formation, c'est la région. Donc, si les places octroyées en début d'année ne sont pas remplies, eh bien, automatiquement, le budget va être réduit. Et moi, j'ai assisté, le directeur cherchait, il manquait un demi-jeune dans le dispositif alloué par la région, donc il fallait trouver, il faisait tout le fichier pour trouver un demi-jeune. J'ai observé ça, oui.
En fonction des deux typologies que tu fais, est-ce qu'ils réagissent de la même manière à ces injonctions-là ou pas du tout ? Est-ce que finalement les plus anciens ont des ressources que n'auraient peut-être pas les plus jeunes, dans parce qu'ils ne sont pas militants, pour se défendre par rapport à ça ?
Chez les plus jeunes, c'est naturalisé, quoi. C'est le logiciel dont ils servent quotidiennement pour travailler. C'est un outil de travail, quoi. Il y a moins de réactions face à ça.
Alors moi j'ai deux petites questions. La première pour Olivier sur les logiciels qui fonctionnent dans les établissements scolaires où j'ai enquêté, je pense au dispositif pour envoyer des SMS aux parents de manière automatique en cas d'absence et au système plus rare mais qui s'installe dans certains établissements des codes-barres pour faire l'appel. J'y reviendrai cet après-midi. Juste une remarque parce qu'effectivement il y a aussi une sorte d'évidence, une faible résistance du côté des jeunes pour l'instant. Enfin, je le livre avec précaution parce qu'il y a encore du travail d'enquête. Mais il y a une banalisation de ces outils-là au quotidien de gestion qu'il faudrait analyser aussi comme peut-être... qui sont banales aussi peut-être parce qu'ils font écho à l'omniprésence de l'informatique, d'outils qui sont plutôt codés positivement par les jeunes. Enfin bon, il y aurait toute une recherche à faire sous l'angle aussi comme le disait Loïc Vacan hier, non pas sous l'angle répressif, mais en termes de ce que ça produit, des effets de socialisation positifs que ça peut produire, y compris chez les jeunes qui sont concernés par ces dispositifs qui pourraient être appréhendés sous un angle sécuritaire, certes, mais aussi peut-être sous un autre angle de la jouissance, enfin entre guillemets, pour reprendre un terme de Foucault. Enfin bon, ça c'était une première remarque et puis je ferai peut-être des choses.
Mais l'onglet envoi SMS existe dans le logiciel, mais en pratique ils s'en servent pas, mais ça existe.
D'accord. Et sinon j'avais une remarque pour Romuald, mais peut-être qui pour t'appeler à compléter un petit peu les choses. Moi ce que tu dis sur la notion sur le recours ou la montée en puissance du recours à la notion de handicap, ça me fait évidemment penser par homologie à ce qui se joue dans le champ scolaire et sur la manière... Quel transfert ou quelle analogie tu fais finalement entre ce qui s'est joué en matière de mobilisation de cette catégorie du handicap dans le champ du travail social ou du travail tout court et dans le champ scolaire et notamment sur la question d'externaliser finalement les difficultés. L'idée de handicap est une façon de naturaliser et d'externaliser les difficultés par rapport à l'école, pour ce qui concerne le champ dans lequel je travaille le plus, et puis peut-être par rapport au travail. Merci.
J'ai répondu.
Ah bon ? Je suis concis. Ça tombe bien que tu poses cette question-là parce que, justement, une des choses qui va dans le sens de la thèse que je soutiens et qui la confirme, c'est que quand je parle d'hypertrophie du champ du handicap, il s'agit essentiellement d'une augmentation très, très rapide du nombre de personnes handicapées adultes. et qui n'étaient pas handicapés au cours de l'enfance. Et pour le coup, il n'y a pas... Il y a augmentation du nombre d'enfants handicapés régulièrement, mais pas de façon particulièrement... en tout cas, aussi visible que dans le cas des adultes. Donc, ce qui laisserait entendre que cette externalisation des difficultés scolaires, qui concerne les enfants, qui est ancienne, dès la Troisième République, et c'est lié à l'enfance inadaptée, etc. Cette externalisation s'est stabilisée en quelque sorte. Et puis par ailleurs, il y a sans doute une période de flou en ce moment liée à la loi de 2005 et à l'invitation à faire tout ce qui est possible pour réintroduire les enfants handicapés dans une situation scolaire ordinaire, les faire revenir les enfants handicapés vers les classes. Alors évidemment, ça pose plein de problèmes d'organisation. Il y a des résistances de toutes parts, d'ailleurs, d'une part du côté des établissements spécialisés, parce qu'il y a une peur de perdre la population dont ils s'occupent et donc leur raison d'être. Et puis des résistances aussi du côté de l'école qui a du mal rencontre beaucoup de difficultés ces derniers temps et qui a du mal à voir comment elle va gérer parce qu'évidemment le sentiment qu'ils ont c'est qu'on va leur demander de gérer des difficultés supplémentaires mais sans moyens supplémentaires. Voilà. Donc il y a effectivement externalisation des difficultés scolaires par le biais du handicap mais pas plus qu'avant, en tout cas, me semble-t-il, et que ce dont je parlais tout à l'heure concerne essentiellement la question de l'insertion sociale et professionnelle et le monde des adultes.
Oui, c'était une question pour Vincent, en fait, parce que tout à l'heure, tu as parlé de culture, d'émergence d'une culture de contrôle. Et j'aurais bien aimé que tu reviennes là-dessus et sur très concrètement comment ça se traduit au niveau des caisses d'allocation familiale ou au niveau du contrôle du chômeur en termes d'organisation du travail, de la place du contrôle. Alors j'imagine que c'est la création d'un corps d'agents spécialisés, mais au-delà de ça, en fait, est-ce que c'est une culture du contrôle qui se diffuse à l'ensemble des institutions ou est-ce que c'est juste le fait de consacrer des agents spécifiquement à cette tâche, en fait?
L'existence d'un corps de contrôleur est assez ancienne. Ce n'est pas de ce point de vue-là que se diffuse cette culture de contrôle, mais ce n'est pas un terme qui est de mon fait, c'est un terme institutionnel, précisément qui a émergé dans les multiples rapports qui ont préfiguré ces réformes, consistant à dire que les administrations sociales, pour faire vite, traditionnellement, mais aussi le ministère de l'administration de l'emploi, étaient traditionnellement rétives à l'exercice d'un contrôle dans la mesure où la culture professionnelle et institutionnelle était plutôt du côté de porter assistance à ceux qui en ont besoin, etc. etc. Alors, ensuite, effectivement, ça a conduit à une sorte de reprise en main par la hiérarchie conduisant à demander à l'ensemble des agents d'être particulièrement sensibles à la question de la fraude, des dossiers mal ficelés, etc., etc. Et c'est en ce sens qu'il y a effectivement une forme de diffusion d'une logique de contrôle qui est assez explicitement organisée comme telle. Ensuite, il y aurait d'autres points à développer, mais voilà, c'est les limites de mon enquête. Concernant, en tout cas, moi, je ne l'ai vu que par ce que pouvaient en dire les contrôleurs, concernant les relations que peuvent entretenir les contrôleurs avec les travailleurs sociaux, par exemple, dont il revient régulièrement dans les entretiens que j'ai pu mener avec les contrôleurs qu'il y aurait des changements dans les habitudes professionnelles et qu'il devient, dixit, les contrôleurs que j'ai rencontrés, beaucoup plus facile qu'auparavant de pouvoir collaborer avec les travailleurs sociaux dans des pratiques de contrôle qu'ils facilite davantage la tâche qu'auparavant des contrôleurs, ce qui irait aussi à l'appui de cette idée de diffusion d'une culture de contrôle. Bien évidemment, je le dis avec beaucoup de précaution, parce que ça mériterait une enquête du côté des travailleurs sociaux que je n'ai pas faite.
Oui, c'est une question pour Romuald Baudin. Vous disiez que vous travaillez sur donc, les éducateurs spécialisés et aussi les professions comme le médecin, les psychiatres, etc. Et du coup, j'aurais aimé savoir dans quelle mesure on peut faire un lien, s'il y a un lien à faire, entre cet accent mis dans le champ de l'éducation spécialisée sur la notion de déficience et déficience individuelle et l'influence qu'exercent dans ce secteur les professions du psychisme, que sont les psychologues, les psychanalystes, etc. quoi. Voilà.
Oui, alors, le poids, l'influence très forte du discours psychologique dans ce champ-là a toujours été très fort. Mais il y a tous les travaux de Castel hein, qui le rappellent. Dans le champ du médico-social, ce qu'on oublie souvent, parce qu'on pense souvent psychologie, c'est le champ des médecins. Enfin, c'est le poids des médecins. Il y a le pendant psychologique qui sont les psychiatres, mais il y a aussi les médecins proprement dit, qui ont un poids très très important dans cet espace-là. Je ne sais pas. Là, il s'agit plutôt de je crois, enfin, la corporation médicale avait évidemment appuyé cette évolution et ces transformations parce qu'elle avait tout intérêt à le faire, non pas pour de mauvaises raisons, mais parce que ça allait dans le sens de renforcer encore leur légitimité, leur position, etc. Mais c'est pas quelque chose qui, me semble-t-il, c'est pas quelque chose qui pourrait être réduit seulement à ça, à cet effort des médecins pour imposer leur situation. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est plutôt l'effet que ça a sur les travailleurs sociaux, parce que je m'intéresse évidemment aux psychiatres, aux psychologues, aux médecins, mais c'est vrai que je garde quand même toujours l'optique travail social, qui est donc mon terrain privilégié. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment ça reconfigurait les relations entre ces différentes professions, et notamment comment, avec cette hypertrophie du champ médico-social, les éducateurs spécialisés pouvaient aussi avoir un sentiment de perte de légitimité, au sens où ce n'est pas le champ où ils peuvent s'exprimer le plus clairement, en tout cas exprimer le plus clairement leur savoir-faire, puisque plus on va vers le pôle du médical et du médico-social, plus les médecins sont présents et plus les médecins rappellent qu'ils sont beaucoup plus légitimes que les travailleurs sociaux et que c'est eux qui sont au cœur de cet espace-là. Donc, plus on va vers ce pôle-là, il y a une sorte de hiérarchie implicite hein, chez les éducateurs spécialisés entre des dispositifs qui sont plus ou moins valorisants plus ou moins pour eux et donc plus ou moins valorisés par eux. Et cette hiérarchie implicite, hein, elle va du milieu ouvert du type prévention spécialisée, éducateur de rue, vers le champ du handicap le plus lourd, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS par exemple, où il est beaucoup plus, alors c'est pas dit comme ça, hein, nulle part on trouve de texte explicite qui dit cela, mais à travers toute une série d'entretiens et puis l'observation aussi des choix d'orientation des élèves éducateurs spécialisés en formation, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une vraie hiérarchie, c'est beaucoup plus valorisant de se diriger vers le champ des difficultés sociales et par exemple la prévention que vers le travail en masse et avec tous les intermédiaires possibles entre les deux évidemment. Mais pour une raison qui est simple, c'est que le poids du médical est tellement important dans le champ médico-social que ça laisse peu de marge au développement du savoir-faire socio-éducatif et donc à la possibilité de s'exprimer totalement et de trouver pleine légitimité. Voilà.
Oui, c'est une question pour Vincent et aussi peut-être pour les autres, parce qu'en fait, j'aurais voulu que vous précisiez, dans ce qui concerne ce contrôle des assistés sociaux, le rapport entre le contrôle de la situation professionnelle et le contrôle des situations familiales qui peuvent être aussi bien un contrôle de la conjugalité en ce qui concerne par exemple les situations monoparentales, c'était le cas dans l'API, qu'est-ce que ça devient maintenant, et puis peut-être ce qui est plus présent aujourd'hui, c'est le contrôle des situations parentales avec notamment le rapport à l'éducatif et aux enfants susceptibles d'être en difficulté. Donc il y a une espèce de conjonction de contrôle assez généralisé où les situations familiales sont effectivement maintenant beaucoup plus sous le feu des projecteurs.
Oui, moi ce que j'ai étudié, c'est le contrôle, des contrôles qui sont du côté des caisses d'allocations familiales liés à l'octroi de prestations, en l'occurrence essentiellement le RMI et l'allocation de parents isolés, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le contrôle des demandeurs d'emploi. Donc effectivement, dans le cas du contrôle du revenu minimum d'insertion comme de l'allocation de parents isolés, en fait, les deux sont tout à fait intimement liés, notamment... comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à propos de cette notion qui fait l'objet depuis la création de l'allocation parents isolés et la prise en compte de ce critère également dans le versement du RMI, l'objet de tous les débats sans être jamais clarifié, qui est la notion d'isolement et qui est l'une des pierres d'achoppement du contrôle et qui en révèle l'un des paradoxes, c'est-à-dire que le contrôle est mené au nom d'un impératif de rigueur autant juridique que budgétaire, et en même temps repose sur l'application de critères et de catégories qui sont proprement indécidables et qui sont en fait, j'aime pas tellement ce terme, mais négociés ou en tout cas appliqués ou redéfinis quasiment au cas par cas avec des indices, finalement un faisceau d'indices extrêmement ténu qui fait que finalement la logique de contrôle réside pour une part dans les relations de face à face et dans les situations extrêmement individualisées entre un contrôleur et une personne contrôlée. Donc effectivement, il y a une sorte de continuum entre ces différents aspects. Ce qu'on peut dire, c'est que l'un des ressorts du développement des pratiques de contrôle est le fait que les allocations soient tendanciellement moins versées en fonction de la reconnaissance objectivable liée à des statuts que... elles ne sont versées sur la base de qualifications de situation qui laissent la porte évidemment ouverte à toute une série d'interprétations et de flous possibles. Ce qui rend à la fois le contrôle plus nécessaire, entre guillemets, et en même temps beaucoup plus compliqué.
Okay, donc j'ai trois questions pour l'instant.
Ouais, c'était juste pour revenir sur la question des éducateurs spécialisés dans le champ du travail social. En fait, il y a depuis peu, et puis depuis quelques années, enfin certainement en relation avec cette explosion de la reconnaissance de personnes au niveau handicapé, cette hypertrophie, en fait, il y a eu la mise en place expérimentale de postes infirmiers, dont je fais partie, qui travaillent dans le champ du médico-social. Mais enfin, nous, on dit encore médico-social, parce qu'on appartient au champ médical. Mais qui font justement cette sorte de tampon entre tout ce qui est médical et qui, devant lequel les éducateurs sociaux sont souvent un peu comme ça, du fait de leur reconnaissance dans les masses, tout ça. Enfin, c'est effectivement, ils n'avaient pas ce champ où ils pouvaient s'exprimer aussi facilement. Alors, on a eu beaucoup de mal à les apprivoiser, ces éducateurs, parce que dans le champ du social, ils avaient le tout pouvoir, quoi. C'était vraiment eux qui décidaient tout, le médical, si la personne nécessitait. Et du fait qu'il y a eu l'introduction de ces postes infirmiers, qui étaient d'abord expérimentaux et puis qui maintenant donc, sont des postes établis, en fait, on travaille en coordination avec les éducateurs sociaux et il y a beaucoup plus d'orientation de personnes qui... lorsqu'elles n'aboutissent pas à retrouver du travail ou à une formation, à une reconversion dans le cadre de perte d'emploi de tous ces adultes qui subissent la crise, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a un mal-être personnel qui vient certainement d'une crise, soit de dépression, mais la dépression, c'est un peu fort. On peut être déprimé, tout simplement, parce qu'on vit, c'est quelque chose de très sain. Et il y a la reconnaissance de cette déprime qui peut être passagère et plus loin. Donc il y a orientation sur des champs médicaux, là, donc avec des psychologues, des psychiatres, des médecins référents qui sont très présents. On travaille tous en coordination avec les éducateurs. et du fait le passage en commission CotoRep et la reconnaissance d'handicap, alors soit travailleur handicapé avec effectivement, je sais pas, plus de temps, enfin pour que les personnes puissent se rassénérer, soit un certain temps qui leur permet peut-être de reprendre le souffle ou de travailler sur elles-mêmes pour justement peut-être combler les failles qui font qu'elles n'arrivent pas à rebondir, quoi, à recommencer à zéro. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Est-ce que tu veux qu'on prenne les...
Oui, on va peut-être prendre effectivement, parce qu'il n'y a plus que 5 minutes de discussion, on va peut-être prendre les deux autres questions et puis vous ferez un paquet de réponses.
Alors moi j'ai une question plutôt pour Romuald, mais qui peut s'adresser aux deux autres aussi intervenants. C'était tu as parlé d'un enflement du côté médico-social et de la frontière ténue entre l'insertion sociale et le discours médical. Alors j'ai compris que c'était assez compliqué. Par contre, moi je m'interroge en termes de discours, c'est-à-dire il me semble qu'il y a une espèce, enfin, que ça peut devenir pervers d'avoir un discours médical sur un problème social. Et très rapidement, enfin, je prends une métaphore bête et méchante et très caricaturale, mais voilà, en termes médical, par exemple, on a un membre qui a une gangrène et on coupe. Voilà. Terme métaphore médicale qui, si on l'applique sur un schéma social, pose tout de suite un problème, à mon avis, quoi. Et donc, du coup, en ce qui concerne ce discours et cet enflement du milieu médico-légal, qu'est-ce que ça engendre sur le discours? Et puis, du coup, en vous entendant parler, on retrouve des métaphores médicales, diagnostic, traitement, tout un vocabulaire qui me semble assez vite pouvoir sombrer dans une perversion quand on parle d'un problème social et plus médical, et donc de la problématique de cette frontière dont on parlait tout à l'heure.
Ok. Merci. Romain ?
Oui, une question qui s'adresse particulièrement à Romuald et donc qui finalement prolonge un peu la question précédente, donc ça va peut-être faire qu'une seule réponse. T'expliquais justement qu'il y avait une tendance, si j'ai bien compris, jusqu'à 2005, parce que peut-être un changement en 2005, mais d'un glissement d'une partie des difficultés sociales vers le handicap, donc une incorporation de certaines difficultés sociales dans le handicap. Et tu disais ironiquement, finalement, si les personnes peuvent par ce biais profiter de certaines aides, c'est tant mieux pour elles. Mais finalement, c'est vrai que je pense que ce glissement, en expliquant qu'une difficulté sociale c'est un handicap, ça permet d'éviter la stigmatisation qu'on a vue dans les interventions précédentes d'Assistana. Finalement, si c'est un handicap, c'est pas que la personne désire rester en difficulté, mais c'est parce que c'est un handicap. Mais le risque, à mon avis, je dirais aussi pervers, c'est probablement une certaine naturalisation de la difficulté sociale, et par là même, à partir du moment où on a naturalisé cette difficulté sociale, c'est-à-dire si la difficulté sociale est un handicap, finalement la personne qui se retrouve en difficulté sociale par le fait qu'elle soit handicapée se retrouve d'une certaine façon exclue d'une société qui, elle, est considérée comme n'étant pas non handicapée. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque à une naturalisation de la difficulté sociale quand elle glisse vers le handicap?
Merci Romain. Il y a juste une tout petite... Mais alors, très rapidement, parce qu'après, il faut qu'on arrête.
Ce sera très, très rapide. Je pense que c'est important que je me présente, parce que c'est important de savoir d'où je parle. Je suis assistant social pour un conseil général. Et j'invite, c'est pas une question, parce que j'en aurais eu des milliers de questions à vous poser, mais c'est une invitation. Je vous invite, sur le plan du contrôle, à venir voir mes collègues assistants sociaux, la plupart du temps 96% de femmes, bien sûr, et qui sont de plus en plus pénétrées par le discours du contrôle, surtout les jeunes. Voilà. Merci.
Merci. C'est une première réponse. Vous répondez rapidement, il reste quoi, 2 minutes?
Ma réponse risquera d'être un peu longue, parce que dans le cadre du Conseil général, effectivement, il y a une espèce de ruse technocratique qui a conduit, par le transfert du RMI aux conseils généraux, à, sans le dire explicitement comme tel, réunir toutes les conditions pour que le contrôle se renforce. C'est-à-dire que... en octroyant la responsabilité du RMI aux conseils généraux sans leur donner tous les transferts financiers correspondants dans une période d'augmentation du chômage et donc de transfert de l'indemnisation du chômage vers le RMI. Je pense que sans faire forcément l'hypothèse complètement machiavélique, on peut penser que par cette espèce de ruse institutionnelle, on a encore une fois tout fait pour conduire à un contrôle renforcé, ce dont les agents de terrain, les travailleurs sociaux, les assistantes sociales comme les autres, doivent régler au cas par cas les contradictions. Peut-être juste très rapidement sur la question du handicap, c'est une question aussi assez compliquée. J'ai un collègue qui s'appelle Serge Ebersold qui a travaillé sur ces questions-là et qui montre par exemple que ce qui est devenu l'une des représentations dominantes pour caractériser les individus éloignés du marché de l'emploi, la notion d'inemployable, est précisément directement issue d'une pensée en termes de handicap, à laquelle elle emprunte le fait qu'on va chercher dans les caractéristiques des individus eux-mêmes les raisons du fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi, et non pas dans des raisons structurelles. Alors ensuite, je crois qu'il y a, ça a été un petit peu suggéré, une espèce de pragmatisme plus ou moins assumé ou plus ou moins cynique qui, dans certains cas, peut conduire à délibérément faire glisser, comme on le dit dans ce milieu, les personnes sans emploi, de l'allocation chômage vers l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation spécifique de solidarité vers le revenu minimum d'insertion RSA, et finalement vers l'allocation adulte handicapé. C'est, du point de vue des travailleurs sociaux, effectivement, une solution pragmatique permettant de garantir une stabilité d'une indemnisation, mais c'est aussi, je pense, sciemment conçu comme tel à un niveau plus politique. En France, peut-être, très certainement, par exemple, il faudrait faire des comparaisons internationales de ce point de vue, mais la Grande-Bretagne se caractérise à la fois par, comme on sait, un niveau d'indemnisation du chômage qui est extrêmement faible et par une proportion de pensions d'invalidité et de handicap qui est extrêmement importante. Donc, de fait, y a un système qui, quasiment explicitement, traite le chômage par passage par le handicap, avec une conséquence qui est quand même importante, c'est qu'on a même fini l'hypocrisie qui consistait à dire que ces catégories étaient éventuellement susceptibles de retourner sur le marché de l'emploi. À partir du moment où on les catégorise du côté du handicap, c'est qu'on a en quelque sorte, quasiment cyniquement, accepté que définitivement c'était une catégorie de la population qui resterait, je dirais, durablement, voire définitivement, en dehors du marché du travail.
Alors juste pour et puis pour conclure aussi, parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause avant la prochaine table ronde, mais si on associe vos différentes questions qui en quelque sorte se complétaient et la réponse de Vincent, on a déjà un certain nombre de réponses. Alors, pour dire vite, si je disais, je disais pas complètement ironiquement que tant mieux si il pouvait effectivement, enfin c'est ce que vous laissiez entendre, c'est que dans certaines situations, si j'ai bien compris, que c'était une solution qui paraissait, pas si critiquable que cela.
J'ai pas.
Yeah. Non, mais je vais. Voilà, simplement, donc pour répondre très rapidement, effectivement, enfin, je vois bien, je comprends bien votre point de vue et votre situation, et c'est effectivement une solution qui, enfin, pour le coup, très pragmatique et qui peut avoir certains avantages, y compris pour l'usager. Et si, c'est pour ça que je disais que j'étais pas ironique quand je disais s'ils peuvent en bénéficier, pourquoi pas. Parce que ce que j'avais en tête, c'est ce que j'ai dit un petit peu après, c'est qu'il y a eu tout un travail au moment même où se mettait en place ce dispositif. Il y a eu tout un travail par les associations de personnes handicapées pour déstigmatiser et démédicaliser la notion de handicap. Ce qui, on aurait pu imaginer, alors on est dans la pure spéculation, mais si ce travail avait été jusqu'à terme, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas imaginer qu'une nouvelle catégorie changeant de nature et de sens aurait pu... voilà, enfin bon, en même temps, ça fait, c'est que... C'est qu'une redistribution hein, d'aide qui change de nom, finalement, ce serait revenu au même si toutes les personnes en difficulté d'insertion peuvent bénéficier de l'AAH, enfin, en tout cas un certain nombre. Bon. Ce sur quoi j'insistais, c'est que ce n'est pas ce qui s'est passé, en fait, et qu'aujourd'hui, le handicap a repris sa définition proprement naturalisante, médicalisante, etc., et que le handicap, implicitement, est un piège pour ces personnes-là, en ce sens-là, ce que évoquait Vincent tout à l'heure, c'est que le handicap s'inscrit dans le champ sémantique de l'inertie, du définitif, de l'impossibilité d'un retour en arrière, etc. Alors même si concrètement il y a des cas, mais qui sont marginaux, hein, de personnes qui effectivement peut-être sont l'objet d'un retour en arrière et peuvent se réinsérer dans le milieu ordinaire, après coup, c'est une toute petite minorité, et pour tous les autres, c'est plutôt quelque chose qui constitue un piège. Et donc, je vais dans le sens des deux autres questions. Hein. Il s'agit bien d'un processus aussi de naturalisation des difficultés sociales. C'est que derrière des difficultés vécues par des individus, il y a le soupçon immédiat que ces difficultés ne sont pas liées. Donc, la responsabilité de ces difficultés ne viennent pas de choses qui seraient d'ordre politique, c'est-à-dire de l'organisation sociale, mais bien d'un déficit qui est lié à l'individu, d'une fragilité, d'une faiblesse, d'un déficit substantiel, comme le dit la loi, etc. Et que par conséquent, la société en elle-même n'a aucune responsabilité concernant ces difficultés, sinon peut-être après la prise en charge de ces personnes-là. Mais c'est la seule difficulté. Je voulais juste raconter une anecdote, mais j'en ai vraiment pour 30 secondes. Pour aller dans ce sens-là, vous parliez du discours aussi. Alors, une anecdote, il y a quand même quelques années, mais pas si longtemps que ça, quelque chose comme 4 ou 5 ans, j'ai été au congrès de l'ANAS, donc l'Association nationale des assistantes sociales, était invité un député de l'UMP, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui était là pour ouvrir avec le maire de la ville où se passait le congrès, etc. Et le député, donc, qui n'y connaissait pas grand-chose au travail social, a quand même réussi à expliquer devant 500 assistantes sociales que, de toute façon, aujourd'hui, il pensait que le travail social avait à se transformer parce que on savait bien maintenant, et il l'a dit avec une absolue certitude en lui-même, on savait bien aujourd'hui que de toute façon les gens qui étaient en difficulté étaient des gens malades et que il a pris un exemple, il a dit que chacun devait savoir que 90% des SDF avaient eu un accident cérébral. Alors, je ne sais pas du tout où il tire ce chiffre-là, mais il a osé dire ça. Alors évidemment, il y a eu une réaction au minimum de surprise, sinon de colère, des assistantes sociales. Ceci dit, personne n'a osé lui dire en face qu'il disait absolument n'importe quoi. Et en tout cas, il y a donc, au moins dans le champ politique et sans doute technocratique, des discours, puisque cette personne-là peut se permettre de dire ça, enfin en tout cas dit avec le plus grand naturel ce genre de choses devant 500 assistantes sociales, c'est que c'est dans certains milieux en tout cas un discours qui se diffuse comme étant tout à fait évident et ne posant pas de problème. Voilà. Bon, je vous invite à faire une petite pause. Merci.